Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition. En vous rappelant ou en vous apprenant, c'est à votre choix, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale pertinente ou un peu moins les petites images qui bougent depuis la fin du 19e siècle et depuis aussi le 20e et depuis aussi le 21e. Ce jour, on va rester au 20e puisque nous allons évoquer la carrière d'un grand cinéaste britannique, Carol Reed, né le 30 décembre, il était temps, 1906, à Londres. Bien que né à Londres, eh bien, sa famille le destinait à devenir fermier. Mais l'homme se prend très tôt de passion pour le théâtre et débute dès 1924, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans, si je calcule bien, dès 1924, dans la troupe de Sybil Thorndike, que vous ne connaissez pas, mais qui était une grande actrice de l'époque, avant de faire la connaissance d'un autre romancier que peut-être que vous ne connaissez pas, Edgar Wallace, puisque l'homme est très connu dans les pays anglo-saxons, mais beaucoup moins chez nous. Edgar Wallace, pour lequel Carol Reed fait l'adaptation théâtrale de certains de ses romans, du théâtre au cinéma, souvent il n'y a qu'un pas. Et bien ce pas, Carol Reed le franchit assez rapidement, puisque dès 1935, il tournera son premier film qui s'appelle Midshipman Easy. Je ne l'ai pas vu, mais bon, peut-être que vous pourrez le découvrir à l'occasion. Entre 1935 et 1947, qui va être la date du premier film duquel nous allons écouter un extrait musical, eh bien l'homme signera une bonne dizaine de films qu'on appelle Quota Quickies. C'est une façon anglo-saxonne de bien résumer la chose, c'est-à-dire des films britanniques qu'il fallait faire pour soutenir, je dirais, le quota de production britannique, notamment face à la concurrence de l'industrie américaine, et quickie, parce que souvent il s'agissait de films extrêmement courts. L'homme fera aussi la guerre à sa manière, puisque dans les années 40, entre 40 et 45, ai-je besoin de vous le rappeler ? Peut-être que si, des fois, j'ai un peu peur. Eh bien, l'homme travaille pour le service cinématographique des armées et donc produit nombre de courts-métrages de propagande. À l'époque, on appelait ça comme ça, mais à l'époque, les temps étaient durs et on n'en était pas aux subtilités. C'est au sortir de la guerre, et on va écouter tout de suite un extrait musical, j'ai été assez bavard, que Carol Reed tournera son premier réel grand succès. Le film, il s'appelle en anglais « Odd Man Out ». En français, il s'appelle « Le 8 heures de sourcils ». Sourcils, c'est mieux. Il a été tourné donc en 1947. La musique, elle est signée de William Alwyn. Et on est dans 24 notes secondes.
Thank you.
Je reste sans voix devant cette magnifique élégie musicale signée de William Alwyn pour un film de Carol Reed tourné en 1947 et intitulé « 8 heures de sursis ». Eh bien, les 8 heures de sursis, c'est celle d'un militant de l'organisation du Sinn Féin qui milite pour l'indépendance de l'Irlande et qui, à la suite d'un hold-up qui tourne mal, eh bien, est traqué par la police britannique. Le rôle principal, il est tenu par James Mason. Et donc, il fallait un certain courage à un cinéaste britannique pour aborder dans les années 50 un sujet aussi délicat, et à vrai dire, il l'est toujours, que celui de l'Irlande et son indépendance dans le sein du Royaume-Uni. Ma foi, Carol Reed s'en tirait absolument magnifiquement, puisque le film était visuellement très largement inspiré du réalisme poétique de Marcel Carné, aussi étonnant que ça puisse paraître pour un sujet beaucoup plus dramatique et beaucoup plus politique que les films de Marcel Carné. Mais visuellement, effectivement, Carol Reed s'inspirait de tout cela. Par contre, il le faisait avec un art très anglais de la dramaturgie. Et puis, il avait aussi un acteur charismatique, en l'espèce James Mason, promis, mais à l'époque seulement promis, à une très, très brillante carrière jusque dans les années 70-80. Bref, après une dizaine de quickies, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, eh bien, Carol Reed gagnait ses galons de grand réalisateur britannique et il les méritait bien. Il obtint même cette année-là, pour un sujet aussi polémique, eh bien, le prix du meilleur film anglais décerné par la British Film Academy et bien d'autres récompenses qui firent que ses films suivants furent beaucoup remarqués et que peu de films consacrés à ce qu'on va appeler la guerre d'Irlande ont une telle acuité. On ne peut citer dans le même genre que Le Mouchard de John Ford, bien connu, tourné avant-guerre, et puis le Young Cassidy qui devait être tourné par John Ford, mais John Ford mourut peu avant le tournage et qui fut signé par Jack Cardiff. Ai-je besoin de rappeler que John Ford était d'origine irlandaise? Ben voilà qui est fait. Ensuite, eh bien, Carol Reed tourna en 1948 un film beaucoup moins remarqué qui s'appelle « Première désillusion ». Et puis en 1949, eh bien, il tourna un film. Alors peut-être que le film, vous l'avez oublié, mais la musique, c'est pas possible puisque la musique, c'est ça.
I knew the old Vienna before the war with its Strauss music, its glamour and easy charm. Constantinople suited me better. I really got to know it in the classic period of the black market. We'd run anything if people wanted it enough and had the money to pay. Of course, a situation like that does tempt amateurs, but, well, they can't stay the course like a professional. Now, the city, it's divided into four zones, you know, each occupied by a power, the American, the British, the Russian and the French. But the center of the city, that's international, policed by an international patrol, one member of each of the four powers. Wonderful. What a hope they had. All strangers to the place, and none of them could speak the same language, except a sort of smattering of German. Good fellows on the whole, did their best, you know. Vienna doesn't really look any worse than a lot of other European cities. Bombed about a bit. Oh, I was going to tell you, about Harley Martins, an American, came all the way here to visit a friend of his. The name was Lime, Harry Lime. Now, Martins was broke and Lime had offered him some sort of a job. Anyway, there he was, poor chap. Happy as a lark and without a cent.
passport, please.
Oh.
What's the purpose of your visit here?
A friend of mine offered me a job here.
Where are you staying?
With him. 15 Stiffgasse.
His name?
Lime, Harry Lime.
Okay.
Thought he'd be here to meet me.
Voilà, c'est un exemple rare d'un film dont la musique est plus connue que le film lui-même. C'était, vous l'avez reconnu, la sitar d'Anton Karas pour un extrait de la bande originale du Troisième Homme. Troisième Homme, c'est mieux, un film de Carol Reed tourné en 1949 avec dans les rôles principaux Joseph Cotton, dont on écoutait la voix, puisque en plus vous aviez un peu du dialogue du début du film, Alida Valli et surtout Orson Welles, qui était justement ce Troisième Homme, un film qui se passait à Vienne dans l'immédiate après guerre et qui était d'un grand cynisme puisqu'on voyait que les humains, pour le faire très simple, n'avaient pas vraiment tiré les leçons du conflit mondial et recommençaient à peu près comme ils étaient avant la Seconde Guerre mondiale. Mais un film à la fois viennois et anglissime puisque le scénario du film était signé de Graham Greene. C'est-à-dire le film n'était pas une adaptation d'un roman de Graham Greene, c'était un scénario originel signé de Graham Greene qui fut l'un des grands romanciers anglais des années 50-70. Quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Et puis, il y avait donc des interprètes américains, mais comme Joseph Cotton ou Orson Welles, mais aussi un art de filmer. Alors, un art de filmer qui reste encore aujourd'hui un mystère, puisque beaucoup, et ce n'est pas très gentil, pensent que Carol Reed n'avait pas forcément la patte suffisante pour certaines scènes bien connues, notamment, pardonnez-moi, au sommet de la Grande Roue, une scène restée fameuse, emblématique du cinéma mondial, ou des poursuites dans des égouts. Et certains soupçonnent Orson Welles, qui était normalement acteur dans le film, d'avoir aussi un peu prêté la main à la mise en scène. Ma foi, Orson Welles était un génie, mais c'était aussi un homme de goût. Donc, il a toujours refusé de s'exprimer sur la façon dont s'était passé, par égard pour Carol Reed, la façon dont s'était passé le tournage de ce film. Il n'en reste pas moins, quelles que soient les responsabilités, qu'il s'agit d'un des grands chefs-d'œuvre des années 50 de l'après-guerre. Un film emblématique. Alors, effectivement, sa musique assez étonnante dans le contexte. On aurait plutôt imaginez le beau Danube bleu plutôt que de la sitar pour la Vienne d'après-guerre, mais sa musique assez étonnante dans le contexte n'a pas peu contribué à son succès, mais son succès il le doit aussi à la qualité du scénario, de l'interprétation, bref, à cet art de Carol Reed et bien de réunir les meilleurs pour faire le meilleur, ce qui n'est pas toujours le cas au cinéma. Le problème souvent avec un réalisateur, c'est que quand on tourne un film comme Le Troisième Homme, qui est d'emblée dans les 20 grands films de toute l'histoire du cinéma, et bien après il faut en faire un suivant. Et que ce n'est pas forcément si facile, et il faut bien reconnaître, pour le faire en raccourci, que dans les années qui suivirent, Carol Reed ne retrouva pas, je dirais, un succès comparable à celui du Troisième Homme. Et on va l'illustrer assez brièvement en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1953. Un film intitulé « L'homme de Berlin » dans lequel on retrouvait James Mason de 8 heures de sursis et à ses côtés Claire Bloom pour une histoire qui se passait, vous l'avez deviné, à Berlin et qui avait beaucoup à voir quand même avec celle du Troisième Homme sans bien sûr en retrouver le succès. En anglais, le film s'appelait « The Man Between », « L'homme entre ». C'est joli. En français, ça s'appelait plus banalement « L'homme de Berlin ». La bande originale, la musique, elle est signée de John Addison et vous êtes bien dans 24 notes secondes. Un extrait de la bande originale signée John Addison d'un film de Carol Reed tourné en 1953. Ça s'appelait L'homme de Berlin. Il y avait James Mason dans le rôle principal. Donc l'histoire était assez sombre avec des agents venus de l'Est et puis une innocente jeune fille interprétée par Claire Bloom qui sera finalement sauvée. Ma foi, le film était bien soigné, bien réussi. Il y avait James Mason, ce qui en soi est déjà un gage de qualité. Mais ma foi, on sentait aussi que Carol Reed s'efforçait un peu désespérément de retrouver le succès du Troisième Homme sans y parvenir. L'homme tournera même, pour l'anecdote, puisque nous n'écouterons pas un extrait de cette bande originale, un film en 1963 que le distributeur français trouva le moyen de titrer Le Deuxième Homme. Alors ça, c'était pas vraiment très gentil, d'autant plus que le film en anglais s'appelle The Running Man, c'est-à-dire l'homme qui court, ce qui n'a pas grand chose à voir, mais voilà, c'est ce que je dis. Le succès, Oscar Wilde le disait bien avant moi, le succès c'est à la fois un bonheur et une malédiction, et pour Carol Reed, c'est un peu ce qui se passa. C'est pourquoi on est un peu surpris de le trouver comme réalisateur d'un film tourné en 1956 et intitulé Trapèze, parce qu'il se passe dans les milieux du cirque et que donc on y retrouve trois trapézistes, alors avec quand même des pointures en la matière, puisque les deux mâles, je ne vois pas d'autre terme que mâle pour les décrire, ce sont Burt Lancaster et Tony Curtis, et que la femme, il s'agit tout simplement de Gina Lollo Brigida. Je vous laisse imaginer pour ceux et celles à leur choix, Burt Lancaster, Tony Curtis, Gina Lollo Brigida dans des maillots bien moulants, le tout quelque part au-dessus de la piste. Ma foi, le film, lui, dans son intrigue, évidemment, il y avait deux hommes, une femme, donc je vous laisse imaginer quel peut être le sujet de l'intrigue. Eh bien, il n'avait pas des sommets d'inventivité psychologique, pourrait-on dire. On n'était pas vraiment là pour ça. On était là pour voir des acrobaties de cirque. Alors, évidemment, les acteurs et actrices étaient doublés pour les figures de trapèze, mais il faut quand même rappeler que Burt Lancaster, en bonne tradition de l'acteur américain qui a tout fait avant de devenir vedette, eh bien Burt Lancaster avait lui-même été acrobate de cirque avant d'être acteur. Et d'après ma petite fiche, qui ne ment jamais, vous le savez, il a exécuté lui-même la plupart de ses numéros de trapèze. À mon avis, c'est pas vrai, puisque l'assureur du film, lui, a dû refuser que Burt Lancaster... On pouvait sacrifier un trapéziste doublure, mais on pouvait pas sacrifier Burt Lancaster dans un film de prestige qui bénéficiait aussi comme conseiller technique de Joseph Bouglione. Donc voilà le cirque à la française, et avec une musique dont, j'avoue, je n'ai pas le compositeur, mais si, il s'agit de Malcolm Arnold, plus connu sans doute pour avoir composé la bande originale du Pont de la rivière Kwai, autre film anglissime, Malcolm Arnold qui signait donc la bande originale de Trapèze, dont nous écoutons maintenant, allez hop, je me lance, double salto arrière dans 24 notes secondes. Voilà, c'est de la musique de piste, c'est un genre musical à part entière, alors je ne suis pas spécialiste, donc je ne saurais vous dire si Malcolm Arnold a fait là une composition originale ou s'il s'est inspiré de bien des musiques de cirque, comme ont pu le faire avant lui Jacques Tati ou Federico Fellini et leurs compositeurs respectifs. En tout cas, c'était un extrait de la bande originale de Trapèze, un film de Carol Reed tourné en 1956. Carol Reed qui a été bientôt la vedette de notre émission de 24 notes secondes de ce jour. Après 1956, eh bien, ses participations cinématographiques seront beaucoup plus clairsemées et il décédera en 1976, en avril 1976, mais il aura quand même eu la satisfaction en 1968, c'est pas son dernier film, mais c'est le dernier à avoir connu un grand succès, de tourner Oliver, une transposition musicale à l'écran du roman de Charles Dickens, Oliver Twist. Ai-je besoin de le rappeler ? Oui, je le crains. Oliver, qui lui vaudra 5 Oscars, tout simplement. Donc, ma foi, c'était un film d'ailleurs très réussi, une belle adaptation musicale d'Oliver Twist et une grosse production, donc une satisfaction pour un réalisateur qui aura tourné 3 ans auparavant le film sur lequel nous allons nous quitter. Un film, là encore, de grande classe, intitulé « L'extase et l'agonie » et qui racontait tout simplement l'histoire des rapports entre le pape Jules II et Michel-Ange pendant la peinture, le mot est mal choisi, par ce dernier, du plafond de la chapelle Sixtine. Je voudrais qu'on fasse un moment de silence pour une super production consacrée au rapport entre le pape Jules II et Michel-Ange pour le plafond de la chapelle Sixtine, dans une époque où, il faut bien le dire, les gros budgets sont consacrés à des super héros. Bref, là nous étions en 1965, donc autant dire à la préhistoire, à l'époque où on avait quand même des grands sujets intellectuellement et des grands interprètes pour les défendre, puisque dans les rôles principaux, il y avait Charlton Heston dans le rôle de Michel-Ange. Oui, je sais, c'est pas lui non plus que j'aurais vu naturellement, mais ma foi, il s'en tirait plutôt bien. Et Rex Harrison, qui lui, était très très réussi dans le rôle du pape Jules II. Quant à la musique, eh bien, elle était partagée entre Jerry Goldsmith, qui signait la bande originale du prélude. Il y avait un prélude en plus à ce film de 10 minutes qui racontait la vie de Michel-Ange. Je vous laisse là encore imaginer un film qui durait plus de 2 heures, qui avait un prélude de 10 minutes pour expliquer au public qui était Michel-Ange. Donc, ma foi, là aussi, on en reste sans voix. Et donc, ensuite, eh bien, la musique, elle était signée du maître de Jerry Goldsmith, Alex North, compositeur bien connu des partitions de Spartacus, des Désaxés, de Cléopâtre et de bien d'autres, sur lequel, plutôt avec lequel, je vous laisse. Pardon Alex, voilà 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.